Vous écoutez Le Paradoxe du Bernard l'Ermite, un podcast produit et réalisé par Circomplex. Face aux mutations et à l'image du Bernard l'Ermite, les entreprises sont parfois amenées à modifier leurs stratégies, leurs objectifs, leur environnement et leur comportement sans possibilité de retour. Dans cet épisode, nous recevons Hélène Ndiaye. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour Margot.
Vous êtes actuaire certifié de l'Institut des Actuaires, directrice générale adjointe du groupe Maïf. Vous êtes également la rédactrice en chef du magazine trimestriel L'Actuariel, créé en 2011, conçu par l'agence Circomplex et édité par la Société des Actuaires. Ce média éclaire les grands risques auxquels fait face notre société en convoquant des expertises scientifiques et actuarielles pour les mettre au service du débat public. Vous avez vous-même participé à l'évolution de ce média en tant que membre du comité scientifique. Pourriez-vous nous expliquer ce qui a motivé sa transformation ?
Quand j'ai rejoint l'équipe de L'Actuariel, il adressait des sujets autour de l'assurance, de la finance, de l'économie, donc des sujets qui s'adressaient au secteur dans lequel travaillent les actuaires aujourd'hui, assez classiques, j'ai envie de dire, donc les banques, les assurances, les financiers. Et il n'était pas du tout accessible à quelqu'un qui ne serait pas de ce milieu-là, de ce secteur professionnel-là. Nous, au fur et à mesure des numéros, on a ressenti le besoin d'élargir un peu les sujets traités en se disant d'abord, il y a des transformations face à nous qui sont telles qu'on ne peut pas passer à côté, d'ailleurs, quel que soit le métier qu'on fasse, en fait. Mais en plus, comme nous, on est quand même porteur d'un secteur et d'évolution d'un secteur qui a un impact hyper important. On le voit bien, hein, les banques, aujourd'hui, on en parle beaucoup, et le secteur assurantiel dans sa globalité. Ce sont des secteurs qui ont un impact très très fort sur l'économie, sur le bien-être, sur la société. On ne peut plus passer à côté de ces sujets beaucoup plus généraux et beaucoup plus larges. Et puis, ça nous permettra aussi de parler et de s'interroger avec des personnes qui sont peut-être plus éloignées de notre cœur de métier. Donc on a revu complètement la forme et le fond, évidemment, puisque la forme était évidemment au service du fond. Mais l'idée, c'est de dire, finalement, avant, il y avait une personne un peu emblématique qui était interrogée. Donc, en général, c'était des patrons de groupes d'assurance ou des patrons de banque, ou on avait eu Christine Lagarde, voilà. Là, on va élargir, hein, des gens qui peuvent être des philosophes, des économistes, etc. On va pas en prendre un seul, mais plusieurs, parce qu'on a besoin de rebondir sur plusieurs sujets. Et puis, on va s'interroger finalement de manière extrêmement large sur toutes les évolutions et toutes les transformations et les impacts possibles qu'il y a sur le monde dans lequel on vit et que finalement, qui finit par se retraduire dans des modèles économiques d'une manière ou d'une autre, qui est notre cœur de métier. Mais aujourd'hui, les influences sont beaucoup, beaucoup plus larges. Et on ne peut plus rester uniquement centré sur uniquement la banque, la finance, l'assurance et un monde... y avoir des œillères, en fait.
Quels sont les enjeux derrière le fait d'amener plus de transversalité dans le secteur actuariel, dans le parcours des actuaires ?
Je suis un peu éloignée de la formation en tant que telle, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand moi je l'ai faite, c'est complètement, effectivement, c'est complètement absent de la formation. On a une formation très large en termes de droit, par exemple. Là, pour le coup, moi, j'en ai un souvenir très précis. J'avais adoré toutes les différents enseignements de droit. On a une formation assez large en termes d'économie, mais effectivement, on n'a aucune formation en termes de sociologie. Je sais pas, de géopolitique, etc. Enfin, tout ça est complètement absent. Alors, je parle même pas du climat quand moi j'ai fait mes études. Hein. Donc, je pense que c'est sans doute à enrichir mon prisme. C'est aujourd'hui de voir sur quoi travaille l'Institut des Actuaires et effectivement qui, pour l'instant, reste assez classique et assez académique malgré tout. Donc, je pense que il y a une nécessité de transformation et c'est un peu le message qu'on essaye de porter à travers l'actuariel. Je pense que l'Institut des Actuaires, d'ailleurs, c'est quand même une prise de conscience, mais qu'aujourd'hui, on n'est pas totalement au rendez-vous des enjeux qui sont face à nous. Aujourd'hui, on ne peut plus S'intéresser à la tarification, par exemple, du risque climatique, sans s'interroger sur les évolutions et l'avancée de la connaissance scientifique, sans connaître un peu, enfin, un minimum s'intéresser à ce que disent les climatologues, à comprendre les enjeux à venir, à comprendre tout ce qui est autour du risque de transition, tous les enjeux à travers, on voit bien aujourd'hui la crise énergétique avec l'inflation, etc. Si on comprend pas comment tout ça s'articule et comment tout ça interagit, on va avoir du mal à projeter quelque chose dans un modèle économique qui est normalement le propre du métier d'actuaire, c'est de projeter les modèles sur des horizons de temps de 5-10 ans. On ne peut plus le faire si on ne s'intéresse pas à toutes les transformations qu'on subit aujourd'hui, et notamment le risque climatique, mais pas que, hein, tout ce que ça va avoir comme conséquence sur des modes de vie, sur les inégalités sociales, sur les migrations, etc. Donc aujourd'hui, on peut plus travailler dans un monde fermé, en fait.
Diriez-vous que cette transversalité progresse malgré tout ? On voit l'exemple d'équipes d'actuaires qui peuvent s'entourer de climatologues, par exemple, pour nourrir leurs travaux. Est-ce qu'on y parvient peu à peu ?
Je ne pense pas qu'on soit allé jusqu'au bout de ce qu'on pourrait faire. Je pense que c'est à l'initiative de certaines entreprises privées de travailler avec des climatologues. Mais il n'y a pas de groupe de place autour de ça. Il n'y a pas de l'équivalent du GIEC, en fait, hein, qui regroupe plein de scientifiques avec des spécialités diverses et variées. Ce n'est pas installé en tant que tel. Avec pour moi, finalement, donc il y a l'enjeu de la modélisation du risque en tant que tel, c'est-à-dire qui est le propre de notre métier d'assureur, c'est-à-dire d'arriver à modéliser l'évolution du risque, donc le risque sous-jacent du risque climatique, qui déjà doit se nourrir de ce que font des scientifiques. Et puis, il y a le deuxième sujet qui est devant nous et qui, pour moi, est colossal, qui est les impacts que ça va avoir sur le modèle économique et peut-être demain commencer à se projeter et se poser les bonnes questions sur le modèle comptable et le modèle prudentiel que ça va embarquer et même, dans le fond, militer pour. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour moi, la prise de conscience, elle est très très forte sur nos modèles comptables et nos modèles financiers et nos modèles prudentiels actuels ne sont pas compatibles avec le changement climatique. Et donc, ça prendra peut-être du temps avant que ça change, mais en tout cas, c'est une évidence que ça doit changer. On ne peut plus aujourd'hui comptabiliser les choses uniquement d'un point de vue financier. Et le faire dans des rapports extra-financiers, donc comme son nom l'indique, extra-financiers, c'est loin d'être suffisant. Et du coup, il y a des réflexions, je sais, au niveau européen, chez les Américains, etc. Donc il y a des réflexions qui sont en cours, mais je pense que les actuaires doivent avoir un coup d'avance par rapport à ça, parce que ça va complètement changer tous les modèles. Aujourd'hui, le modèle de l'actuaire repose sur la rentabilité attendue du modèle. Puisque notre travail, c'est de dire, je projette les risques dans le temps, et du coup, je calcule le tarif inhérent à cette projection maintenant. Si dans la façon dont je calcule ça, si la façon, les outils de mesure que j'utilise, je ne tiens pas compte d'ores et déjà des corrections qu'il faut appliquer en fonction du changement climatique, je passe à côté du risque du changement climatique, en fait. Et aujourd'hui, il y a vaguement des réflexions autour de ça, mais je pense que les actuaires sont très loin de ces sujets-là. Il y a quelques entreprises sûrement qui réfléchissent plus, mais c'est pas organisé.
Comment a donc été accueillie cette nouvelle formule de l'actuariel qui s'est soudainement enrichie de nouveaux sujets, de nouvelles matières à première vue éloignées du monde de l'actuariat ?
Je pense que les premiers numéros ont un petit peu questionné sur est-ce que c'est vraiment le métier des actuaires de se prononcer, d'interroger des sociologues, des philosophes. Il y a eu ce questionnement à un moment donné de certains membres de l'Institut ou de certains actuaires qui nous ont dit mais pourquoi vous faites des articles sur des sujets tellement éloignés de votre métier de base ? Et quel est le lien avec le métier d'actuaire ? Ça a été un des points de difficulté. Aujourd'hui, je dirais qu'on l'a plus. Je dirais que c'est derrière nous. Je pense qu'il y a quand même eu une prise de conscience. On a moins ce questionnement. Ou alors, je suis trop optimiste et je le vois pas et j'ai pas envie de l'entendre. Mais en tout cas, je pense qu'il est moins présent.
Est-ce que ce travail-là, par ricochet, est venu vous nourrir dans votre poste de directrice adjointe de la MAIF ?
Ah oui. Alors là, de manière très très claire, mon travail sur l'actuariel nourrit mon travail au quotidien, ça c'est certain. Alors, il se trouve que moi j'ai travaillé sur la stratégie climat de la MAIF, qui a donné lieu à la création du dividende écologique, dont on a beaucoup parlé en début d'année. C'est sûr que dans mon cheminement sur l'urgence, les questions et comment l'adresser, il y a eu toute une série d'articles, que ce soit sur la taxonomie européenne, que ce soit sur les discussions autour des différents modes de comptabilité, que ce soit sur tout le questionnement autour des énergies renouvelables, la voiture électrique, tous ces dossiers-là, la gestion des forêts, même si ce dossier-là, c'était un peu moi qui l'avais commandé, mais tous ces dossiers-là, évidemment, nourrissent ma réflexion et me permettent de mieux embrasser toutes les questions qui se posent autour de la transition, du risque climatique et de la transition écologique et de la façon dont il faut traiter le sujet. Et de la même manière, d'ailleurs, certains dossiers assurantiels et plus techniques vont permettre d'avoir une lecture, parce que c'est pas parce qu'on est actuaire qu'on connaît tous les modèles par cœur. Par exemple, les modèles paramétriques, moi j'en ai entendu parler, je vois vaguement ce que c'est, mais je n'avais pas de prise de recul par rapport à ça. J'avais vaguement une intuition dans ce qu'on m'avait présenté, mais pas prise de recul. Donc même sur quelque chose qui est plus proche de mon métier au quotidien, les dossiers m'instruisent évidemment. Et donc j'ai beaucoup de plaisir à y travailler, et de toute façon je le fais par plaisir, je le fais pas par obligation, et je trouve que c'est très 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 enrichissant. J'espère que ça l'est tout autant pour ceux qui lisent.
Le paradoxe du Bernard Lhermitte, le titre de ce podcast, renvoie au paradoxe du dirigeant qui, au moment d'évoluer, oscille entre la crainte de bouleverser le modèle qui a fait la réussite de son entreprise jusque-là et la conviction d'une nécessité d'évoluer. Qu'en pensez-vous ?
En fait, ce paradoxe-là, c'est notre quotidien. En permanence. C'est cet équilibre extrêmement subtil entre protection d'un modèle à long terme, dont aujourd'hui on ne voit pas encore la faille immédiate, d'un modèle à long terme dont on bénéficiera peut-être même pas nous, parce qu'en général les dirigeants ils sont à un certain âge, hein, il y en a très peu qui ont 20 ans, à part ceux des start-up. Donc ceux qui sont à la tête des boîtes, peut-être qu'eux-mêmes ne seront pas concernés, peut-être leurs enfants, etc., mais ça peut être un petit peu lointain. Ça peut leur demander énormément d'efforts à court terme, sans en voir jamais les bénéfices. Et donc pour garantir une pérennité dont ils sont même pas sûrs que c'est le bon moyen d'y arriver. Donc c'est extrêmement compliqué. Et à la fois, aujourd'hui, je pense, mais je suis peut-être trop optimiste, qu'il n'y a aucun dirigeant d'entreprise qui n'est pas conscient du changement climatique, de tout ce que ça va embarquer, etc. Mais le paradoxe, il est bien là. C'est-à-dire que pour moi, c'est un conflit d'horizon de temps, en fait. Puisque je l'ai dit, tant que les normes comptables et les normes financières n'intégreront pas cet impact long terme, de toutes les façons, ce conflit existera. Et du coup, c'est malgré tout, et encore, et j'espère que pas pour trop longtemps, une question de conviction personnelle. Moi, j'ai la chance de travailler à la MAIF où, du coup, il y a une prise de conscience au niveau du conseil d'administration. Alors, en plus, voilà, c'est pas des actionnaires, hein, c'est des sociétaires. Mais il y a une prise de conscience extrêmement forte. Et quand on leur a dit, par exemple, pour le dividende écologique, C'est pour garantir qu'on pourra encore être assureur dans 10 ans, dans 20 ans, pour garantir à nos sociétaires qui pourront encore habiter là où ils habitent aujourd'hui, et qu'on ne construit pas un monde de toutes les façons invivable, inhabitable et inassurable, hein, puisque de toute façon, au bout d'un moment, on l'a bien dit, hein, si la Terre se réchauffe, de toute façon, on ne pourra plus y vivre, on ne pourra plus rien assurer, donc il n'y aura plus, plus d'assureurs, et donc de toutes les façons, on tuera notre propre modèle. Donc, au-delà du fait de, il y a une conviction personnelle qui est que il faut absolument engager un maximum d'efforts dès maintenant pour essayer de réparer peut-être quelque chose qui n'aurait eu un effet que dans 20 ans, mais on voit bien aujourd'hui, c'est ça, c'est l'inaction qu'on paye très cher aujourd'hui. Et en plus, c'est ça qui nous donne une chance d'encore exister, mais c'est un pari.
Tous les épisodes du Paradoxe du Bernard Lhermitte sont disponibles sur circomplexe.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Ce podcast accueille les témoignages de transformation de dirigeants issus de l'écosystème de l'agence Circomplexe.